Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir des négociations, vous en parlez, intenses à gauche dans la perspective des législatives, mais toujours beaucoup de points d'interrogation. Comment se mettre d'accord sur les programmes, sur les circonscriptions, entre avancées et reculades, on fait le point dans un instant. Quand la flambée des prix plombe la croissance, l'inflation est au plus haut depuis 37 ans en France et la croissance égale à 0% ce trimestre, en cause une consommation en berne. Reportage à suivre à Lyon. À suivre aussi les Russes qui se verraient bien annexer la ville de Kherson en Ukraine. La démission du patron de Frontex, l'agence chargée de garder les frontières de l'Europe. Des bus électriques parisiens qui prennent feu. Et puis pour finir, une recommandation de lecture, un roman espagnol digne de Cervantes.
France Inter. La gauche tiraillée entre rassemblement et déchirement.
Cela fait plusieurs jours maintenant que ça négocie entre états-majors pour tenter de s'unir en vue des législatives. Avec d'un côté la France insoumise, de l'autre les écologistes, les socialistes, les communistes. Les discussions sont toujours en cours. Ce matin, les socialistes ont fait un pas en direction des insoumis en souscrivant aux principaux points du programme mélenchoniste. Mais ensuite, le PS a décidé de suspendre les pourparlers. Chez les Verts, au contraire, après quelques tensions ces derniers jours, les discussions ont repris cet après-midi. Bref, c'est compliqué. Il faut dire que les obstacles sont nombreux. Sur le programme, d'abord avec des points de crispation autour de l'Europe, l'OTAN, l'Ukraine, et puis sur le choix des circonscriptions. Pas facile pour les vieux partis de lâcher leur implantation locale. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Alors au-delà de ce suivi heure par heure, il y a un point commun derrière ces multiples rebondissements. Jean-Luc Mélenchon cherche à créer une fracture au sein de ses futurs alliés. Hein.
Il veut faire le ménage avant l'élection, résume un observateur des négociations. Pousser au maximum tous les sujets de clivage pour acter des fractures au sein des états-majors et ainsi séparer le bon grain de livret. Le plan se déroule sans accroc. Ce matin, l'annonce d'un premier accord sur le fond entre PS et Insoumis a suscité l'ire de Carole Delga, patronne de la région Occitanie, de Mickaël Delafosse, maire de Montpellier. La gauche républicaine, sociale et écologique ne peut tourner le dos à l'Europe par la désobéissance. Et devinez qui s'empresse de relayer ces messages et de les remercier même. Un proche, un ministre d'Emmanuel Macron, Clément Beaune. Et dans la foulée, les Insoumis déclarent qu'un nouveau parti socialiste est né, sous-entendu, censé traître. La logique fonctionne aussi côté écolo, où l'objectif est de faire sortir l'ancien candidat, Yannick Jadot, que le parti soit aux mains de Sandrine Rousseau. Chez les communistes, on sent poindre le même scénario, avec une jeune garde prête à la négociation et des anciens beaucoup plus sceptiques. Il hystérise tous les camps, constate un député, et c'est très bien joué. Il joue le peuple contre les élus.
Maxence Lambrecq, on en reparle dans le téléphone sonne avec vous, Claire. Emmanuel Macron, lui, n'a toujours pas l'intention de se précipiter pour nommer le prochain Premier ministre. Il souhaite d'abord, dit-il, un retour au calme, à la concorde après la bataille présidentielle. En déplacement dans les Hautes-Pyrénées, le chef de l'État évoque aussi un premier paquet de mesures à l'été autour du pouvoir d'achat, de l'école et de la santé. La croissance européenne, elle est au point mort. C'est l'effet de la guerre en Ukraine, de la vague Omicron. La croissance dans la zone euro marche au ralenti. 0,2% au premier trimestre, c'est même moins encore en France, avec une croissance carrément nulle dans l'Hexagone, 0% au premier trimestre 2022. Le PIB ne progresse plus, notamment à cause d'un net recul de la consommation. Les Français dépensent moins à cause de la flambée des prix, 4,8% d'inflation sur un an, un niveau inégalé depuis 1985. Les consommateurs, eux, sont obligés de mener de véritables stratégies pour subir le moins possible cette hausse des prix. C'est le reportage à Lyon de Mathilde Imberti.
62 ans, un salaire dans la sécurité. Placide répartit ses achats entre les magasins discount et les autres selon le type de produit.
Oui, on fait un peu plus le tour. On se prête de certaines enseignes. On achètera tout ce qui n'est pas tout à fait frais, comme le sucre par exemple. Ça ne coûte pas cher, c'est de qualité.
Il choisit aussi de ne plus consommer certains biens.
Par exemple, moi j'achète moins de livres maintenant. J'en achèterai plus tard. Bon, voilà.
De véritables stratégies de consommation et à chacun d'élaborer ses solutions. Anan, maman de jumeau âgé de 6 ans, anticipe les listes de courses.
On consomme plus quand on n'a pas de décision, quand à la dernière minute on fait les courses. Mais si on fait notre programme pour la semaine, pour le mois, ça va.
Pour tout ce qui n'est pas alimentaire, elle se tourne vers le marché de l'occasion. Myriam, elle aussi, compte et anticipe en permanence. Elle est fonctionnaire à Lyon, elle a 2 enfants.
Déjà pour les petits pots de bébé, pour ma fille, je vois une augmentation. Un pot qui devait coûter 1,73€, je le paie à peu près 2,12€ par là aujourd'hui. Donc c'est quand même significatif. Hein. Pour un panier de courses classique que je faisais avant, aujourd'hui je le réduis. Ou alors je fais mes courses dans des magasins où c'est discount, où les dates d'opération sont proches. Oui, je fais attention à tout maintenant.
Myriam, qui sait déjà que cet été sa famille ne partira qu'une semaine en vacances, car il faut économiser pour assurer les achats de la rentrée prochaine. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
C'est pour le moment la seule ville ukrainienne totalement aux mains des Russes.
La ville de Kherson, au sud du pays, occupée par les chars russes depuis près de 2 mois, secouée régulièrement par des manifestations d'habitants hostiles. Mais la Russie envisage de franchir un nouveau pas dans son contrôle de la ville. Le rouble pourrait ainsi devenir la monnaie locale à Kherson à partir de ce dimanche, 1er mai. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Sébastien.
Le Kremlin qui essaye de faire de cette région, avec cette région, comme avec la Crimée, un début d'annexion en quelque sorte.
Oui, alors il y a eu l'annexion militaire, c'était début mars, puis la mise en place d'une administration pro-Kremlin. Bientôt donc la monnaie, le rouble, qui devrait remplacer progressivement la grivnia. Et pourquoi pas un référendum d'autodétermination, même si l'ancien maire ukrainien de Kherson, Igor Kolikayev, n'y croit pas.
Je n'ai pas d'informations confirmées. Au début, un référendum devait être organisé le 27 avril, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de raison pour proclamer, entre guillemets, une république populaire de Kherson. Ce serait plus simple pour eux de rattacher le territoire à la Crimée annexée que de créer une république de toutes pièces.
Une possible annexion donc, alors que les combats continuent au nord, vers Mykolaïev, et que la contestation dans Kherson n'a pas baissé en intensité malgré 2 mois d'occupation.
Il y a eu une manifestation publique mercredi à 10h du matin. Des centaines de citoyens se sont rassemblés. Les forces de l'ordre russe ont alors réprimé le mouvement avec du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes. Et 4 personnes ont été blessées.
Une manifestation contre la présence russe, mais aussi contre la dégradation des conditions de vie. Les prix augmentent à Kherson, la nourriture et les médicaments manquent. Et selon l'ancien maire, des habitants sont victimes d'expropriation.
Thibault Lefebvre, les frappes russes d'hier soir sur Kiev, en pleine visite du patron de l'ONU, ont fait une victime, une journaliste ukrainienne de Radio Liberty, un média financé par les États-Unis. Enfin, Mariupol, nouvelle tentative d'évacuation de civils et nouvel échec aujourd'hui. On a annoncé une opération pour sortir des civils de l'usine d'Azovstal, mais aucune confirmation à cette heure. Encore en bref, à l'étranger, un nouvel attentat sanglant en Afghanistan. 10 morts dans l'explosion d'une mosquée sunnite de Kaboul aujourd'hui, aucune revendication à cette heure. Ils sont morts en tentant de rejoindre l'Europe. Plus de 3000 migrants morts en mer l'an dernier, 2 fois plus qu'en 2020, chiffre diffusé aujourd'hui par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. L'agence qui est chargée de garder les côtes et les frontières de l'Europe, c'est l'agence Frontex. Une institution dont le patron est depuis longtemps critiqué pour ses méthodes. Bonsoir Béatrice Deguay.
Bonsoir.
Et on a appris aujourd'hui que le Français Fabrice Légéry avait présenté sa démission.
On est schizophrène, constat amer de ce même Fabrice Légéry début décembre à l'occasion d'une table ronde européenne sur les migrations. Il s'y avouait coincé entre l'impératif de défendre les frontières de l'Europe, de stopper les migrants illégaux et celui de laisser accéder aux procédures de droit d'asile. Une manière d'admettre aussi pour le patron de Frontex qu'il n'était pas franchement d'accord avec la philosophie de l'agence et la nature de sa mission. Les ONG l'ont régulièrement accusé ces dernières années de refouler les migrants de manière illégale, de les intercepter par exemple dans les eaux grecques, mais de faire comme s'ils étaient toujours dans les eaux turques pour les renvoyer vers leur pays. Des députés de ce groupe de travail, du groupe de travail sur Frontex au Parlement européen, ont fini par exiger que l'agence respecte les droits fondamentaux des personnes dans toutes ses actions. Il faut dire que sous l'impulsion de Fabrice Légéry, l'organisme est en quelque sorte devenu une police européenne de la mer avec des agents armés, en uniforme. Ils seront 10 000 gardes frontières et gardes-côtes d'ici 5 ans. Alors qu'avant 2015, Frontex était un dispositif qui portait secours aux migrants en mer. Ursula von der Leyen a succédé à Jean-Claude Juncker, ainsi aussi à la tête de la Commission, avec une approche migratoire manifestement plus favorable à l'accueil.
Béatrice Duguay, c'est un camouflet pour le ministère de l'Intérieur et pour son locataire Gérald Darmanin. Le Conseil d'État a décidé de suspendre la dissolution de 2 associations pro-palestiniennes françaises, la Place Beauvau accusée de Comité Action Palestine et le collectif Palestine Vaincra d'appel à la haine, à la discrimination, à la violence et de provocation à des actes terroristes. Les magistrats ont estimé que cette dissolution portait atteinte gravement à la liberté d'expression et d'association. Lui était une figure de la danse en Belgique accusée de harcèlement sexuel par 12 12 femmes, Yann Fabre a finalement été condamné aujourd'hui à 18 mois de prison avec sursis. Le procureur avait requis 3 ans ferme. Un ancien champion de tennis, bientôt derrière les barreaux, l'ex numéro 1 mondial Boris Becker, condamné par la justice anglaise à 2 ans et demi de prison pour avoir caché de l'argent alors qu'il était en faillite. On y reviendra dans le journal de 19h de Claire Chaudière.
Il était 8h quand un bus électrique de la RATP a pris feu ce matin.
Oui, c'était dans le 13e arrondissement de Paris. Aucun blessé, tous les passagers ont été évacués. Le problème, c'est que c'est le deuxième incendie de ce type de véhicule en moins d'un mois dans la capitale. La RATP qui a donc décidé de retirer de la circulation par précaution les 149 bus électriques parisiens, un tiers de sa flotte. Des bus construits, Maxime Debs, par l'entreprise Bolloré et qui interroge les usagers.
Ouais, cet incident préoccupe fortement la FNOT, la Fédération des usagers d'Île-de-France, Marc Pélissier, son président.
On avait déjà fait part de nos préoccupations par rapport au premier incendie boulevard Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est la confirmation évidemment qu'il y a un vrai problème.
Problème qui étonne cet observateur du secteur, surtout vu le prix de ces bus dernière génération.
Ces bus électriques coûtent environ 500 000 euros l'unité. C'est une bonne chose d'un point de vue écologique. Mais bien évidemment, il faut que la sécurité et la fiabilité soient assurées.
Comment un bus alors peut-il ainsi prendre feu? Une enquête a été ouverte, mais le président de la FNOT Île-de-France y va déjà de sa première hypothèse.
Les bus Bolloré ont des batteries particulières puisqu'elles doivent être maintenues autour de 60 degrés, je crois. Technologie que Bolloré utilisait sur Autolib et qui a reconduit sur ses bus donc de la famille Blue Bus. Et ça peut expliquer peut-être une facilité plus grande pour prendre feu. En tout cas, une fois qu'il y a un court-circuit, visiblement, c'est très rapide. On a vu des vidéos là de l'incendie de ce matin. Vraiment, en quelques dizaines de secondes, le bus s'est embrasé.
Ouais, ce soir, la Fédération des usagers interroge. Ne faut-il pas faire inspecter l'ensemble des bus électriques de la flotte par précaution?
Maxime Debs du service économie de France Inter.
On termine, Sébastien, avec un romancier espagnol digne des plus grands auteurs.
L'espagnol Benito Pérez Galdós, peu connu en France, il est pourtant considéré de l'autre côté des Pyrénées comme l'écrivain espagnol le plus important depuis Cervantes. C'est la prescription de la semaine du service culture. 2 romans rassemblés en un volume sous le titre Les romans de l'interdit. Pérez Galdós explore les secrets qui rongent ses personnages et notamment le venin de l'argent, Ilana Mor-Youssef.
Il faut être un éditeur un peu fou ou inconscient pour se lancer aujourd'hui dans la publication en français d'un auteur espagnol du 19e siècle. Jean Le Gall l'a pourtant fait. Pour lui, Benito Pérez Galdós, génie de la critique sociale, est trop original, trop moderne pour rester inconnu en France.
C'est, dit-on, le plus grand auteur espagnol depuis Cervantes, à tout le moins le grand auteur du 19e siècle espagnol. Un auteur que les Espagnols rangent régulièrement entre Dickens et Balzac pour situer un peu l'importance de son œuvre à leurs yeux.
2 romans sont rassemblés ici sous le titre « Roman de l'interdit », Tormento et Madame Bringas. Avec un plaisir un peu sadique, selon Jean Le Gall, Pérez Galdós explore les secrets qui dévorent ses personnages, au premier rang desquels l'obsession de l'argent.
Vous savez, l'argent, c'est un peu le secret défense aujourd'hui de la littérature. Allez comprendre pourquoi c'est un thème incontournable de nos vies et néanmoins banni. Eh bien, Galdós, lui, s'en empare. Et il nous montre que le sortilège de l'argent est aussi fort, quelles que soient les classes sociales et quelles que soient les conditions des personnages.
Pérez Galdós possède en plus un art de la tension dramatique, de l'ironie et du dialogue qui le rendent à la fois irrésistible et moderne.
Voilà les romans de l'interdit publiés aux éditions du Cherche Midi.
Merci mille fois pour ce conseil. C'était le journal de Sébastien Legénie.